Chapitre 32. 19 janvier 1972. Ce soir, c'est l'anniversaire d'un client au cabaret des oiseaux. Les lieux ont été privatisés pour une centaine de personnes. Blanche et deux autres hôtesses ont dû venir plus tôt que d'habitude pour aider à préparer la salle, les décorations et superviser l'organisation. Les artistes qui seront présents, le gâteau, les surprises. Soutkovski l'a accompagnée devant la porte pour être sûr qu'elle ne mentait pas. 16 heures, c'est tôt. À l'intérieur, quelqu'un s'est assis au vieux piano qu'on a placé exceptionnellement au centre de la scène pour l'occasion. Il improvise sur les variations Goldberg. Blanche ne connaît ni cette musique, ni la personne qui se tient derrière le clavier. Debout, dos au bar, elle est incapable de bouger. Elle n'a jamais entendu une musique pareille. « Il a Dieu à chaque doigt », souffle-t-elle à une collègue qui ne comprend pas ce qu'elle raconte. Quand le musicien se lève, elle est surprise par la jeunesse de ses traits. « Il ne faut pas être vieux pour jouer ainsi ?» Le pianiste la voit, immobile devant lui à quelques mètres, et se dirige droit vers elle. Il est immense. Soudain, il s'arrête et la dévisage de ses grands yeux clairs avec une telle intensité qu'elle a le sentiment qu'il la touche. Et Blanche se laisse détailler sans dire un mot. « Vous ressemblez à quelqu'un, » murmure-t-il, mais sans lui ressembler. « Comment vous appelez-vous ? »
« Blanche. »
« C'est beau, Blanche. Une note blanche vaut 2 temps. Savez-vous où je peux trouver un verre d'eau ?» Après avoir bu, il retourne à son clavier, et elle à son travail. À 18h30, l'équipe se rassemble pour dîner sur le pouce avant l'arrivée des invités. Le pianiste reste avec le groupe et s'assied à côté de Blanche, comme s'il la connaissait, mais ne lui dit pas un mot. Au cours de la soirée, elle apprend qu'il se prénomme Jean et qu'il donne des concerts dans le monde entier.
« Dans le monde entier ?» pense Blanche. « Mais alors que fait-il ici, dans ce cabaret ?»
L'homme qui fête son anniversaire, Alain Terzieff, est le directeur du conservatoire de Lyon, là où ce pianiste a fait ses études. Jean lui réserve une surprise.
C'est à moi qu'il fait une surprise.
Cette phrase résonne dans sa tête, sans discontinuer. Quand Alain Terzieff pénètre dans le cabaret, tous ses amis sont là. La fête débute. Jean, derrière le piano, entame une valse polonaise en guise de bienvenue. Heureux, il le serre dans ses bras. Blanche est surprise par cette marque d'affection.
« Tous ces gens sont beaux, » pense-t-elle. « Ils ne font pas partie du même monde que moi. Ils sont libres, vont où ils veulent, font de la musique, sont des poètes. À moi, jamais on ne me ferait un tel cadeau. Je n'ai pas d'amis pour me fêter. Mes jours d'anniversaire sont des jours ordinaires. Avant, quand Natalia était là, elle débarquait le matin avec un joli gâteau et des bougies pour moi. Chaque année, Soudoro lui disait « Fais gaffe la grosse avec tes conneries, tu vas brûler ta barbichette. » Il était jaloux de l'amour que je lui portais. Il y a un numéro d'acrobatie, un magicien, des ballons de baudruche, un bavarois géant. Blanche récupère les 50 bougies soufflées. Depuis qu'elle est petite, elle chaparde et s'émerveille d'un rien. Comme ceux qui manquent de tout. Il y a les cadeaux, un voyage au bord de la mer, un stylo plume doré, des livres, une écharpe, des bouteilles de vin, une gravure ancienne. Elle observe cette pluie de présents avec délice et convoitise. Elle se demande ce qu'elle aimerait recevoir comme cadeau si elle le pouvait, en dehors d'être libre. Un amour aussi beau que le pianiste. Normalement, Jean aurait dû partir avec les autres après la soirée. Normalement, Blanche aurait dû rentrer chez elle à vive allure avant qu'il se lève et s'aperçoive de son absence dans la chambre accolée à la sienne. Mais il était parti. Blanche et Jean ont été portés par la même envie, au même moment, celle de désobéir à la vie. Elle l'a attendu. Il savait qu'elle l'attendrait. Elle lui a pris le bras et lui a dit que son temps était compté. Il a pensé qu'elle allait mourir. Ils sont passés devant un club et sont entrés. C'est Jean qui l'a entraîné par la main. Et quand les autres musiciens sont partis, Ils se sont assis ensemble derrière un piano. Elle a posé ses doigts sur les siens et a suivi ses mouvements. Il a joué Adagio, entre 66 et 76 pulsations minutes. Dès qu'elle l'avait aperçu derrière le piano, Blanche avait su que cette nuit serait la plus importante de sa vie. Une intuition qui avait précédé toutes les autres. Une nuit qui ne ressemblerait à aucune autre. Ils se sont séparés autour de 7 heures du matin. L'appartement était silencieux. Vera et lui étaient partis depuis la veille. Il avait laissé l'argent pour manger sur la table de la cuisine. On était le 20 janvier. Quand son géniteur est rentré 2 jours plus tard, il ne s'est douté de rien. Ni qu'elle avait aimé, ni qu'elle avait passé la nuit avec quelqu'un, ni qu'elle n'oublierait jamais. C'est ainsi que j'imagine les choses. C'est ainsi que j'aurais filmé leur rencontre si j'avais continué à faire du cinéma. J'ignore comment les faits se sont déroulés, comment ils se sont rencontrés, mais ils se sont rencontrés et m'ont conçu. Je suis la fille de Jean Septembre et Blanche Soutkowski. Anna Ruben ne m'a pas portée dans son ventre. Paul me l'a annoncé hier, après la soirée paella bien arrosée. Il était 2 heures du matin, tout le monde était parti se coucher. Nous étions tous les deux au premier étage du Monge et j'ai profité de ce tête-à-tête pour lui dire qu'il n'était plus comme avant, qu'il ne me regardait plus dans les yeux et que cette sensation de ne plus être regardée était épouvantable. Comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je lui ai demandé si je l'avais blessé. Alors Paul a parlé, soulagé de vider son sac. Tu sais, dans la maison des Fredin, sur le téléphone, on a trouvé des empreintes digitales. Les tiennes, celles de ta tante et celles de Soutkowski. Que tu aies un ADN de la même source que celui de Colette Septembre, c'est normal. Les oncles et tantes partagent environ 25% de leurs gènes avec leurs neveux et nièces, mais... Mais Soutkowski a les mêmes marqueurs génétiques que les tiens. Je me prénomme Agnès, comme ma grand-mère. Anna Ruben est ma mère. C'est elle qui a dormi près de moi les jours de fièvre. C'est moi qui lui tenais la main lorsqu'elle a été emportée par la maladie. C'est aussi ma main qu'elle a serrée le jour de l'enterrement de papa. C'est à moi qu'elle a confié son violon. Elle qui a mis sa jolie robe pour venir à notre mariage. Elle qui était maladroite, ne sachant que dire ou que faire à bien des occasions, me regardant comme une inconnue lorsque j'étais adolescente et claquais les portes. C'est à elle que je voulais ressembler lorsque j'étais enfant, quand elle montait sur scène, son violon à la main. C'est la première à qui j'ai montré mes films. Elle que j'appelais le soir pour lui raconter mes journées, celles de la veille, de l'avant-veille, du jour même, du lendemain. Sur les papiers, je suis Agnès Septembre, fille de Jean Septembre et Anna Ruben. Ce n'est peut-être pas son sang qui coule dans mes veines, mais c'est son univers. Toute ma vie, quand j'ai crié « maman » par réflexe, parce que j'avais peur de quelque chose, c'est Anna que j'ai appelée. C'est elle qui m'a manqué quand Pierre m'a quittée. Elle qui était présente le jour de la naissance d'Anna et qui a été bouleversée qu'elle porte son prénom. Agnès, tout ce que tu fais est toujours chargé de grâce, m'a-t-elle dit un jour.